Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h20, on continue les grands débats ce matin avec Elisabeth Lévy, Michel Taube, vos appels 0826-300-300. On va revenir sur cette crise des sous-marins et aussi sur les fusillades perpétrées hier à Cavaillon. Encore une fois, vous voulez nous en parler, 0826-300-300.
Oui, les fusillades à répétition, évidemment, avec ce témoignage. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, d'une mère de famille qui était avec nous tout à l'heure à 7h10. Sa fille, évidemment, était aussi dans le collège, puisqu'ils ont été avertis, les parents, par SMS, qu'il fallait aller venir chercher les enfants parce qu'il y avait des fusillades en fait autour, évidemment des trafiquants de drogue. Beaucoup d'enfants sont restés confinés, les parents pleuraient en fait devant les grilles en fait de l'école et ils demandent une intervention en fait assez urgente dans ce quartier, toujours à cause de quelques-uns de trafiquants de drogue et des fusillades et des balles perdues. Évidemment, c'est pour ça que par exemple le CCAS, c'est-à-dire le Centre d'Action Sociale, eh bien, a fermé parce qu'il y a eu des balles perdues en fait dans les vitres ou en tout cas dans ce centre ou un autre. Nous allons y revenir donc dans un instant. Il y a aussi évidemment le phénomène Zemmour, on en a parlé, et puis il y a toujours cette crise diplomatique. On attend que Emmanuel Macron téléphone à Biden ou que Biden réponde ou que Biden décroche son téléphone, visiblement.
Il n'y a pas de réseau pour l'instant.
Non, il n'y a pas de réseau là pour l'instant. Voyons, avant d'en discuter avec vous, Michel Taube et Elisabeth Lévy, et vous au 0826-300-300, Félix Mathieu, les derniers développements, alors dernier rebondissement en date, c'est cette bombe entre guillemets du ministère des Armées qui a accuse publiquement l'Australie d'avoir menti jusqu'au tout dernier moment.
Oui, dans une série de tweets, le porte-parole de l'armée française règle ses comptes. Le jour même de l'annonce, affirme-t-il, les Australiens ont écrit à la France pour dire qu'ils étaient satisfaits des performances atteignables par le sous-marin et par le déroulement du programme. Quelques heures après ce courrier, on s'en souvient, l'Australie annonçait donc en grande pompe l'abandon de ce contrat au profit des Américains. Annonce en présence de Joe Biden, suite à un an et demi tout de même de négociations secrètes dans le dos de la France. Alors, en révélant ce courrier, en tout cas, l'armée française conteste clairement la version de l'Australie, des Australiens qui prétendaient avoir tenu Paris au courant de leurs doutes.
Oui, et donc c'est la dernière en date d'une série de passes d'armes.
Oui, la diplomatie française a déjà rappelé ses ambassadeurs, annulé une rencontre entre les ministres des armées français et britanniques, accusé les anglo-saxons de mensonges, de duplicité. Alors, face à cette France qui se montre offensée, il y a eu quelques mots d'apaisement, on pourrait dire, depuis Washington, Londres et Canberra. Le président Biden, qui, vous le disiez Patrick, aurait demandé à parler à Emmanuel Macron par téléphone. C'est ce qu'affirme en tout cas le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Le premier ministre australien qui a avancé, lui, que son attachement à la France n'était, je cite, plus à prouver. Il a même évoqué les soldats envoyés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Quant à Boris Johnson, au Royaume-Uni, il a parlé, je cite, toujours de l'amour indépassable de son pays pour la France, de l'amour indéracinable du Royaume-Uni pour la France.
Michel, merci pour ce factuel, Félix Mathieu. Michel Taube, vous êtes un expert avisé et observateur de cette actualité internationale, avec votre site Opinion Internationale. Qu'est-ce qui se joue véritablement en coulisses, en fait, dans cette histoire ?
Alors, il se joue plusieurs choses. D'abord, il se joue cette affaire, à nos dépens, les Français, c'est le coup d'envoi d'une guerre froide. On est dans la guerre froide entre les États-Unis et la Chine. D'ailleurs, à la une de mon journal, j'invite vraiment vos auditeurs à lire la tribune de Jérôme Poirot, qui est un des grands spécialistes du renseignement en France, et qui fait une tribune très intéressante pour dire qu'un des grands perdants de cette affaire, c'est bien entendu la France, c'est clair, mais c'est aussi la Chine. Parce qu'en fait, les États-Unis ont décidé d'exporter dans le Pacifique leur célèbre politique de l'endiguement, de containment, je ne sais pas si vous savez. En Amérique latine et un petit peu en Europe de l'Ouest, les États-Unis, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et dans les décennies suivantes, avaient dit ça, l'Amérique latine, c'est notre chasse gardée. Vous ne pouvez pas venir sur notre territoire, c'est notre zone d'influence. Et bien aujourd'hui, Biden, ce qu'il a décidé, c'est de faire la même chose dans le Pacifique. C'est-à-dire que face à la Chine, qui constitue pour les Américains la menace d'aujourd'hui et de demain, eh ben, personne d'autre que les États-Unis et ses alliés les plus proches, la Grande-Bretagne, quand même incroyable, Boris Johnson qui parle d'un amour infini avec la France. Mais enfin, c'est quoi ces preuves d'amour, de désamour, ces preuves de...
Non mais, voilà. Il y a
donc
les
ça, c'est la première
aussi.
Chose. Alors maintenant, les Australiens. Alors ce qui est très intéressant, c'est que l'ancien Premier ministre australien, hier, le précédent, dans Le Monde, a commis une tribune pour désapprouver l'attitude du Premier ministre d'aujourd'hui. Et c'est vrai que la révélation de cette lettre, qui quelques heures avant la rupture du contrat avec la France disait exactement le contraire, prouve bien, c'est la preuve de ce que cette décision est ultra politique. Beaucoup disent que le bide qu'a fait Biden, en Afghanistan, avec les talibans, l'a conduit à essayer de trouver une petite victoire à la Pyrrhus sur un autre dossier. Et qu'en faisant racheter le contrat par les Américains aux Australiens, c'est une petite victoire qu'aurait Biden pour pouvoir justement faire passer la couleuvre de ce qui s'est passé en Afghanistan. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est le coup d'envoi d'une nouvelle guerre froide. Là, elle a commencé. Et que dans une guerre froide, tout est possible. Le problème, c'est que le dindon de la farce, c'est non seulement la France, mais c'est aussi l'Union européenne. Parce que dans cette alliance des États-Unis avec la Grande-Bretagne, l'Australie, probablement bientôt le Canada, il n'y a pas la France, il n'y a pas l'Union européenne. Et la France est un peu démunie. Alors, évidemment, le ministre des Affaires étrangères a dit qu'ils étaient en discussion avancée avec l'Inde pour essayer de constituer une alliance Inde-France pour être quand même présent dans le Pacifique. Mais quand même, quelle erreur stratégique de la part de Biden d'avoir écarté ainsi la France. Je pense que véritablement, ça va avoir des conséquences très graves. Ça va avoir notamment des conséquences devant l'Alliance Atlantique. Parce que vraiment, à quoi ça sert d'être dans l'OTAN si notre principal allié qui est les États-Unis nous fait des coups de judo comme cela.
Oui, Elisabeth Lévy.
Pardon, je crois que vous... je me demande, cher Michel, j'avais commencé à lire le papier dont vous parliez et j'invite nos auditeurs effectivement à lire, ça a l'air très
sur
intéressant.
Sur le site Opinion Internationale.
De Jérôme, pardon.
Poirot.
Voilà. D'abord, je me demande si vous n'êtes pas un peu optimiste quant à notre capacité à la France et à l'Union européenne de réagir, notamment dans cette affaire d'OTAN, parce qu'on a plutôt tendance à se coucher en général. Et la chose que je me demande, si vous voulez, alors vous le récusez un petit peu, mais malgré tout, les Américains, si vous voulez, continuent, même s'ils ont tort dans leur conception, de défendre ce qu'ils pensent être leurs intérêts. America first, et après tout, ça me semble être tout à fait le rôle d'un gouvernement de défendre les intérêts de son pays. Ce qui m'inquiète, en fait, c'est que ça fait des années, et ça se voit dans le vocabulaire que nous employons, nous parlons de nos amis, nous parlons de sentiments, nous parlons du couple, si vous voulez, les États n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts, ils ont des intérêts comme vous le savez. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai pas le sentiment qu'on fasse France first, ou la France d'abord, je n'ai pas le sentiment qu'on défende nos intérêts. On est tout le temps là en train de côter sur l'Union européenne. Tout ça me semble naïf.
Défendre nos intérêts, c'était notamment de vendre, d'arriver à vendre à l'international notre gros contrat d'armement. Et d'ailleurs, j'aimerais dire deux petites choses juste de politique intérieure. La raison principale pour laquelle Jean-Yves Le Drian est si vindicatif depuis une semaine, c'est qu'il a quand même été un très bon ministre de la Défense, qui a réussi à vendre des Rafales à l'Inde, au Qatar, à l'Égypte. C'est lui qui était ministre de la Défense quand on a signé ce contrat du siècle avec l'Australie sur les sous-marins. Et donc, il prend comme une défaite et comme un affront personnel cette décision des Australiens. Deuxième point, deuxième point, c'est le silence d'Emmanuel Macron. Oui. L'annulation de sa présence à l'Assemblée Générale des Nations Unies, alors que depuis qu'il est président de la République, il se fait le chantre du multilatéralisme.
Il n'était pas prévu qu'il y aille, dans un premier temps.
Mais il y avait quand même des pressions pour qu'il s'exprime très très fortement, et il est silencieux depuis une semaine. Et là, franchement, je comprends pas. Je trouve que Emmanuel Macron, depuis qu'il est président de la République, lorsqu'il y a des crises graves, quelles qu'elles soient, arrive à observer un silence qui pèse, qui dure, et qui fait que la situation s'envenime. Je me rappelle les Gilets jaunes. Lorsque ça a commencé, il a mis 3 semaines à réagir. Et bref, il a laissé un vide occupé par ses adversaires.
Je ne comprends pas, sauf encore une fois, à ce que ce silence très très long
ne cache une décision imminente de la France qui pourrait notamment concerner sa présence au sein du commandement intégré de l'OTAN. Mais honnêtement, je ne comprends pas ce silence, sauf à ce que... Alors, il y a eu des décisions importantes, comme vous le disiez tout à l'heure, le rappel des ambassadeurs, tout ça, c'est important. Mais quand même, la parole du président de la République, elle est importante, d'autant qu'encore une fois, ce n'est pas la première fois depuis qu'Emmanuel Macron est président que les États-Unis le bousculent très fortement.
Non, mais, pardon,
pardon. Rappelez-vous Trump qui est venu à la Tour Eiffel.
Je vais pas l'arrêter. Non, mais je voudrais vous poser une question avant la fin. Pardon.
Oui. Dernière réflexion.
Non, mais les Américains tremblent certainement après l'annulation d'un cocktail, ça c'est sûr. Mais Michel Taube répondait clairement, devons-nous sortir du commandement intégré de l'OTAN aujourd'hui? Oui ou non?
Honnêtement, je pense que, comme vous le disiez fort justement, nous n'avons que des intérêts. Et vu que les États-Unis sont engagés maintenant depuis plusieurs années dans une forme de repli sur eux-mêmes, effectivement, je pense que l'Union européenne et les Européens doivent plus compter sur eux aujourd'hui que sur les États-Unis. Donc ce ne serait pas la première fois que l'on quitte le commandement intégré de l'OTAN. Donc effectivement, je pense qu'il faut bien réfléchir à ça. C'est peut-être à ce à quoi il réfléchit. Mais effectivement, ce sera un des enjeux, à mon avis, des prochains mois dans le débat public de notre pays.
Merci, Elisabeth Lévy. Michel Taube, fondateur du site Opinion Internationale. Allez le voir, évidemment, c'est sur le numérique. Dans quelques minutes, on va parler, dans la France à vos côtés, d'une pénurie en fait, de main-d'œuvre. Enfin, d'employés, oui. De salariés, dans un secteur qui est plutôt étonnant.
Hein. Oui, c'est le métier de la comptabilité qui ne fait plus rêver, visiblement, et qui, il y a beaucoup d'offres sur Pôle emploi, plus de 43 000 offres qui attendent toujours preneurs, donc on va essayer de comprendre pourquoi, et on va essayer de vous donner envie de vous former, ou de vous reformer, ou de vous convertir, en tout cas avec des acteurs qui seront avec nous ce matin, les responsables du recrutement chez Fiducial, et une manager de chez Pôle emploi.
On en parle dans 10 minutes maintenant, vous pouvez appeler d'ailleurs aussi pour poser toutes les questions, peut-être si ça vous intéresse, 0826 300 300, peut-être vous êtes en pleine reconversion, Elisabeth Lévy, comptable, je la vois très bien.
Et vous voulez partager votre expérience.
Oui, en complètement, tout cas, et puis dans un instant, les fusillades à répétition, témoignages à Cavaillon.
À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Bienvenue, merci de votre rejoindre et merci de votre fidélité au Grand Matin Sud Radio. Il est 9h34 et ce matin, on va revenir sur ces nombreuses fusillades répétées à Cavaillon. De nombreux organismes aujourd'hui de services publics ont plié bagages, en tout cas ferme. Et vos appels 0826 300 300. Et pour nous en parler ce matin, c'est Ahmed. Bonjour Ahmed.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes à Cavaillon. Alors, on est quand même surpris et beaucoup d'auditeurs se demandent ce qui se passe parce que cet été, il y a eu donc des fusillades en 10 jours, hein, des balles qui fusent et les services sociaux qui plient bagages, comme le disait Cécile. Hier, de nouveau, devant une école, un collège du quartier d'Em, du docteur M, de nouveau, effectivement, des tirs et puis les enfants qui sont restés à l'intérieur. Que se passe-t-il? Ce sont des trafiquants de drogue, en fait, c'est ça qui pourrit sa vie du quartier?
Ben, je pense, oui, il y a certainement une délinquance liée au trafic de stupes, mais enfin, je veux dire, c'est pas l'image de Cavaillon du tout, quoi. Je comprends qu'on focalise sur Cavaillon, mais vous savez qu'on a 6 salles de cinéma à Cavaillon, nous avons des infrastructures, il fait bon vivre à Cavaillon, il y a des restos, on a des plafans, on peut boire un coup. C'est de ça que je veux parler, moi.
Ouais.
Effectivement, je veux dire, je veux pas jeter la pierre ou fustiger qui que ce soit, mais il y a au niveau sécuritaire, en fait, je veux dire, au niveau de la police et tout, il y a des analyses qui ont été faites et certainement c'est eux qui ont les solutions. C'est certainement pas à moi de vous dire qu'il faut accuser ou c'est la faute de. Mais je suis désolé qu'à chaque fois, à Cavaillon, on parle de Cavaillon que par ce focus.
Ah bah oui, c'est-à-dire que c'est vrai, on a envie de parler de Cavaillon autrement, parce que c'est magnifique, toute la région et la ville. Et là depuis quelques mois, on ne parle que de ces scènes, qui sont choquantes tout de même.
Moi, si vous me demandez mon avis, je peux vous le donner.
Oui.
Mais mon avis n'est pas un avis de spécialiste sur la délinquance, vous comprenez ce que je veux vous dire.
Oui,
Moi je suis certain que au niveau du ministère de l'Intérieur, ils ont des analyses, ils savent exactement ce qu'il faut faire. Je dis pas que chacun ne fait pas son boulot ou quoi que ce soit, mais franchement, c'est le fait d'une extrême minorité, mais Cavaillon pas plus que Bordeaux, que Marseille, que Nîmes, que truc, on subit tous malheureusement cette délinquance liée à un certain trafic. Mais je pense qu'il faut faire des analyses, trouver le bon diagnostic et agir en somme. Mais ce qu'il faut surtout dire aux gens, c'est que Cavaillon, nous ne sommes pas une cité, j'allais dire, du Chicago de l'antan. Il y a un trafic de drogue.
Oui, sauf que on a entendu des habitants qui disent qu'ils ont envie de déménager. Ils n'en peuvent plus, quand même.
Mais évidemment, mais écoutez, moi, je suis issu du docteur Haïm. Je vous assure, monsieur, qu'il faisait bon vivre. Il y a très peu de temps. Il y a encore des gens que je connais, des amis qui y sont et tout. Ils sont excédés par ce truc. Mais il n'y a aucun effet d'insécurité, je veux dire. C'est délinquant, et effectivement, je veux dire, c'est une délinquance qui est, j'allais dire, systémique. C'est un système qui a été mis en place et qu'on a laissé au fil du temps prendre une ampleur, mais je vous assure que moi, je vais...
Et comment? Alors, ben, il faudrait des brigades de police supplémentaires, en fait, dans le quartier pour établir le calme, quoi, non?
Je ne pense pas que ce soit juste une forme de brigade ou rajouter en plus. Il faut faire une analyse, il faut faire un diagnostic, il faut agir en conséquence. Moi, je vous assure que quel que soit le problème, la solution qu'on va trouver, si ce n'est pas une solution avec du recul, si ce n'est pas une solution avec une vision, avec une stratégie et tout, il ne peut pas y avoir... Il faut regarder l'ensemble du territoire français, mais même l'ensemble, j'allais dire, de l'Europe ou même du monde. On a tous le même problème. Et ce problème, il est...
Quel est le problème, alors? Oui, Ahmed.
Le problème, à mon avis, le problème, ouais, c'est que nos jeunes sont un peu dans un système un peu, j'allais dire, désarmé, en parlant avec l'image,
ouais,
et on n'arrive pas à leur donner une vision globale, un avenir. Un avenir. Donc, ils cèdent à cette facilité, ils cèdent à cette délinquance qui les truc. Et par voie de conséquence, on rentre dans un cirque infernal. Mais je suis persuadé que si on se met à trouver des solutions, c'est-à-dire globales, pour essayer d'occuper nos jeunes, pour essayer de leur donner un avenir, un espoir.
Mais oui, attendez, Ahmed, il y a des choses qu'on a du mal parfois à comprendre. Alors, c'est difficile, hein, évidemment, on ne va pas résoudre ça en deux secondes et puis en une discussion, mais il y a énormément de secteurs qui ne trouvent pas aujourd'hui de l'emploi, qui cherchent dans un instant, on va parler en fait des métiers de la comptabilité, où on n'arrive pas en fait à recruter. On cherche à former en fait des gens, des jeunes ou des gens en reconversion, on n'arrive pas à les trouver. Et à côté de ça, vous dites, il n'y a pas d'avenir pour ces jeunes.
Il y a
du travail, quand même.
Justement, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la comptabilité, que ce soit dans
n'importe quel
secteur, on manque de main-d'œuvre. Ce qu'il faut, c'est franchement une parole claire, une parole éducative. Il faut prendre le problème à la racine, à l'école, plus bas, beaucoup plus bas. On ne peut pas résoudre un système comme ça, dire, on va ramener trois brigades de CRS en plus. Non, il y a un diagnostic à faire. Il faut qu'il soit le plus précis. Vous voyez, essayer de se rapprocher de nos cités, de nos quartiers. Moi, j'y vais, il y a un marché le vendredi. Je vous invite à venir, franchement.
On a une habitante tout à l'heure, Ahmed, qui nous disait qu'elle ne veut plus y aller, qu'il y a des commerçants qui ne viennent plus, des marchés, par exemple,
qui ne veulent plus
y venir parce que depuis quelque temps, ils estiment que c'est dangereux, quoi. Oui.
Non, mais justement, si vous me prenez le cas négatif, c'est sûr qu'on trouve
toujours... Oui.
Moi, j'y vais tous les... Moi, je veux bien la rencontrer, cette dame. J'y vais tous les vendredis, je vous assure. Je vais chercher du poisson là-bas. J'y vais tous les vendredis.
Ouais.
Voilà. Et je sors au ciné quasiment une fois par semaine avec mon épouse.
Ouais.
Et on rentre à des heures et je garde ma voiture dans un parking loin. Et je n'ai aucun sentiment d'insécurité dans la ville de Cavaillon. Bon. Il y a effectivement un certain trafic lié, comme je vous ai dit, aux stupéfiants. Il faut trouver une solution. Il ne faut pas dire, il faut faire ci, il faut faire là. Non, je pense qu'il faut s'asseoir, prendre le problème à la racine, le réfléchir. Écoutez, il y a toujours une raison aux choses.
Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci Ahmed, Ahmed. Pour votre témoignage sur cette situation. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. Dans un instant, Cécile, nous allons aborder
les métiers de la comptabilité.
Oui, la France à vos côtés.
Rêver, malheureusement, une image peut-être un peu désuète du comptable derrière son ordinateur. En tout cas, on vous donnera des clés. On vous expliquera que le métier de comptable, c'est pas que derrière un ordinateur. En tout cas, il y a aujourd'hui 43 000 offres qui vous attendent au Pôle Emploi. Vous êtes jeune, vous êtes plus âgé, vous voulez revenir en reconversion. On va vous en parler avec nos spécialistes, Sophie Mallet-Blanchet, qui sera avec nous dans quelques instants, responsable du recrutement chez Fiducial, et Florine Laubier, qui est manager chez Pôle Emploi. Et puis, vous voulez nous appeler et en parler, poser vos questions ou partager votre expérience, 0826 300 300.